Bonsoir à tous. C'est un privilège d'être avec vous ce week-end. Je m'excuse par avance auprès des personnes qui s'attendaient à entendre un accent québécois ce soir. Mais après plus de 10 ans d'exil, il ne reste pas grand-chose de mon accent. Un peu quand même. Voilà, on va faire un effort. Mais en tout cas, cette perte importante d'accent me vaut les reproches de certains et les félicitations des autres, qui considèrent que c'est un exploit d'être parvenu à se débarrasser de cet accent. Mais l'accent revient, notamment quand j'ai mes parents au téléphone, etc. Ma famille est une espèce de mélange culturel, puisque Laura, mon épouse, est d'origine américaine. Enfin, elle est citoyenne américaine, mais elle est née à Grenoble. Elle a grandi en région grenobloise. Donc son accent est un peu différent du mien. On a vécu effectivement 5 ans en Alsace, où j'étais pasteur à Wittenheim, ce qui n'a pas arrangé mes problèmes d'accent. On a 3 enfants, 3 petits garçons de 5 ans, 3 ans et 1 an. Le tout dernier, Nathanaël, Natou, vient d'ajouter un mot important à son vocabulaire qui en contient 3, je pense. Papa. Le problème, c'est que chaque fois qu'il voit un homme, il dit « papa ». Quelques mots sur le thème du week-end. S'émerveiller du plan de Dieu. Pourquoi consacrer 3 interventions au grand thème de l'émerveillement ? Eh bien, tout simplement parce que l'émerveillement, c'est l'un des moteurs essentiels de la vie chrétienne. Quand je suis bouche bée devant Dieu et devant ce qu'il a fait, conquis par sa grandeur, j'avance, je progresse, je porte du fruit. Quand au contraire l'œuvre de Dieu me paraît tout à fait normale ou banale, je stagne ou je fais marche arrière. L'émerveillement est indispensable à la marche du croyant. Or, et c'est presque paradoxal, s'émerveiller est un défi. On ne s'émerveille pas toujours aussi facilement que ça, et parfois on a beaucoup de mal à y parvenir. J'ai la chance, quand je rentre à la maison tous les soirs depuis l'Institut biblique de Genève et que je me dirige vers la frontière franco-suisse, parce que j'habite du côté français, j'ai la chance d'avoir le Jura suisse et le lac Léman dans mon rétroviseur, les Voirons devant moi et les Alpes, en particulier le Mont Blanc, sur ma droite. C'est ainsi que je traverse paisiblement les campagnes genevoises. Je n'ai aucune excuse pour être en déficit d'émerveillement. Je bénéficie de conditions optimales pour m'extasier quotidiennement devant la création de Dieu. Et pourtant, je dois faire face à au moins 3 obstacles qui peuvent m'empêcher d'admirer la beauté de la création. Premier obstacle, quand je roule trop vite, j'ai du mal à m'émerveiller. Mon degré d'émerveillement est inversement proportionnel à ma vitesse de croisière. Et je me pose la question, est-ce que dans mon planning, je ménage des plages horaires qui me permettent de ralentir et de lever les yeux sans précipitation vers mon Créateur et vers mon Sauveur? Deuxième obstacle, à Genève comme en Haute-Savoie, il y a beaucoup de brouillard. J'ai de bons amis québécois qui ont fait le voyage il y a quelques années pour faire, vous savez, le fameux tour du Mont-Blanc à pied en 10 jours. Donc ils ont fait ça. Et en 10 jours, ils n'ont pas vu le Mont-Blanc une seule fois à cause du brouillard, alors qu'ils étaient juste à côté. Et parfois, quand je roule vers chez moi, le Mont-Blanc est effectivement invisible. De la même manière, c'est souvent une espèce de brouillard intérieur qui empêche les yeux de mon cœur de voir le plan de Dieu. L'inquiétude, la colère, l'impatience, de mauvaises priorités, le péché en général. Troisième obstacle, ça fait 2 ans environ que j'habite en Haute-Savoie et je me pose la question, est-ce que dans 5 ans ou est-ce que dans 10 ans, je verrai encore le Mont Blanc qui s'élève devant moi quand je rentrerai à la maison, ou est-ce que je me serai habitué à sa présence? Est-ce que le plan de Dieu, parce que je me suis converti il y a longtemps ou parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, a perdu de son attrait ou de son éclat à mes yeux? Parfois, j'entends des chrétiens dire « J'ai du mal à lire ma Bible parce que je l'ai déjà lue. » Qu'est-ce qu'on dit en général quand on arrive au sommet du Mont Blanc? Ah mince, c'est vraiment dommage, ça n'a pas trop changé depuis la dernière fois. Dieu merci, ça n'a pas changé. Et Dieu merci, le plan de Dieu n'a pas changé depuis le jour de ma conversion. Mais il y a sûrement des aspects de son projet que je n'ai pas encore apprécié à leur juste valeur. Conscient des obstacles qui nous guettent, et il y en a certainement d'autres, il y en a beaucoup plus que 3, je vous propose ce week-end de relever avec moi le défi de l'émerveillement et d'inviter le Saint-Esprit à illuminer les yeux de notre cœur afin que le plan de Dieu qui a été conçu dans l'éternité passée nous paraisse plus merveilleux et plus réel que jamais. Ce soir, on va chercher à s'émerveiller de notre salut. Éphésiens 2, les versets 1 à 10. Demain matin, on va s'émerveiller de la communauté qu'on forme ensemble avec le texte suivant. Et dimanche matin, on va laisser Dieu nous émerveiller par ce qu'il veut encore faire en nous. Éphésiens chapitre 3. J'aimerais lire donc notre premier texte. Je vous invite à trouver votre Bible. Éphésiens 2, les versets 1 à 10. Le texte ne sera pas projeté. Par contre, au fur et à mesure des développements, les extraits dont je vais vous parler seront projetés à l'écran. Merci. Éphésiens 2, 1 à 10. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Parle-nous, Seigneur, par ce texte, nous t'en supplions. Amen. Par ce texte, Dieu veut nous émerveiller par la puissance qu'il a déployée en nous sauvant. Il veut nous émerveiller par la puissance qu'il a déployée en nous unissant à Jésus-Christ. Pour être émerveillé par cette puissance divine, on doit réaliser 3 choses. Ce que nous étions, ce que Dieu a fait pour nous et ce que nous sommes devenus. Premier point, ce que nous étions. Les versets 1 à 3. Dans les versets 1 à 3, Paul décrit l'humanité entière sans Christ, l'être humain déchu. Il part de ce qu'on était vraiment avant notre conversion. Plus on saisit ce qu'on était, plus on sera impressionné par ce que Dieu a fait. Les mots que Paul utilise sont très parlants. Il dit 3 choses. Il met en avant 3 vérités sinistres, pour reprendre l'expression bien connue d'un commentateur d'Éphésiens. Première vérité sinistre. Nous étions morts. Verset 1. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Le « vous » fait ici référence aux lecteurs des chrétiens d'origine non-juive, des pagano-chrétiens qui habitaient dans la province romaine d'Asie mineure. Vous étiez morts, c'est-à-dire spirituellement morts, ce qui signifie séparés de Dieu. Il n'y avait en eux, comme en nous d'ailleurs, aucune vie spirituelle, aucune communion avec Dieu. Qu'est-ce qui a causé cette mort? Qu'est-ce qui a provoqué cette distance infranchissable entre l'homme et Dieu? Nos fautes et nos péchés. On n'a pas réussi à observer toute la loi de Dieu et on l'a souvent mise de côté. On n'a pas fait tout ce qu'on aurait dû faire et il y a plein de choses qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas faites. Pardon, je viens de dire deux fois la même chose pour ceux qui ont suivi. Et on a fait plein de et on n'a pas fait, pardon, on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Voilà. Est-ce qu'on voit la gravité de notre problème? On n'était pas seulement malheureux, pas seulement déçus par la vie, pas seulement rongés par la solitude ou blessés. On était des cadavres au sens spirituel, inanimés à cause de nos propres péchés. À la fac de théologie où Laura et moi avons fait nos études, l'un des profs de prédication avait l'habitude de faire vivre à ses étudiants un exercice assez particulier. Un moment pendant le semestre, il leur donnait rendez-vous dans un cimetière. Et il leur disait « Allez-y, prêchez ». Proclamez la parole de Dieu, ici, devant les tombeaux. Et attention, Monsieur Luther ne rigolait pas. Alors, les gens hésitaient un peu et regardaient pour voir si du monde qui passait par là. Et puis, ils y allaient, quoi. Ils prêchaient l'évangile. Ce prof avait un objectif précis, qui n'était pas de traumatiser les étudiants. Ça, c'était l'un des effets secondaires de son cours. Mais il voulait leur faire réaliser de façon mémorable que quand on annonce l'évangile à des non-croyants, on parle à des gens qui sont spirituellement inanimés. Et on est démunis. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas les ramener à la vie. Ils sont morts. Notre seul espoir dans l'annonce de l'évangile, à la fac ou ailleurs, c'est que la puissance du Dieu créateur se manifeste. Lui seul peut donner la vie. Pas nous. Nous étions morts. Deuxième vérité sinistre, nous étions esclaves. Non seulement on était morts, mais on était esclaves. Des cadavres esclaves. On était esclaves de trois influences. Le monde, le diable et notre propre chair. Première influence, le monde. Verset 2. Vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde. Paul sollicite ici l'image de la marche qui exprime un style de vie. Vous, pagano-chrétiens, avant votre conversion à Christ, vous marchiez selon le cours de ce monde. Le monde ici, ce ne sont pas les personnes, les individus qui nous entourent, mais c'est la société organisée sans Dieu. Le grand système de valeurs qui domine, mais qui est étranger à Dieu. C'est la culture pop. C'est l'ensemble des valeurs communiquées par les médias, par les raisonnements humains, ce sont les grandes institutions humaines qui n'accordent aucune place à Dieu. Un commentateur parle d'un esclavage culturel. On pensait comme tout le monde autour de nous, on suivait la foule. On se laissait entraîner par le courant, incapable de s'en démarquer, de discerner le vrai et le faux. Deuxième influence, le diable. Toujours au verset 2, « Vous marchiez selon le prince de la puissance de l'air ». Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le diable est le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire celui qui domine sur toutes les puissances du mal qui sont mentionnées à différents endroits dans l'épître aux Éphésiens. On était esclaves des mensonges du diable. On adhérait à ses valeurs à lui. Et une troisième influence, notre propre chair, verset 3. « Nous tous aussi ». Intéressant. Jusqu'à maintenant, c'était vous. Mais maintenant, Paul est en train de dire, nous, les Juifs, les Judéo-chrétiens, finalement, on n'était pas mieux que vous. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. » La chair, c'est l'être humain livré à lui-même, c'est l'homme sans Dieu. Paul ne fait pas seulement référence à ce qu'on appelle parfois dans la langue française les péchés de la chair ou les péchés sexuels. La chair englobe tous nos mauvais désirs égoïstes, c'est beaucoup plus large. La soif de posséder, le désir d'impressionner, de se faire un nom. Le péché sexuel en fait partie, l'amertume, l'esprit de vengeance, etc., etc. Un auteur a écrit « De tout temps, la mort a inspiré les artistes, mais ce que Paul dépeint ici est plus redoutable que n'importe quel tableau. En effet, ces versets forment une fresque décrivant la mort spirituelle. On y voit des défunts qui marchent, qui vaquent à leurs occupations et qui assouvissent les désirs de leur nature pécheresse. » Plutôt macabre. Nous étions morts, nous étions esclaves, et une troisième vérité sinistre, nous étions condamnés. Toujours au verset 3, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Par la nature pécheresse dont on a hérité d'Adam, par nature, et en plus par nos fautes, par nos péchés, nous vivions sous le poids de la colère, du jugement de Dieu. Dieu est trois fois saint. Et lorsqu'un Dieu saint voit notre péché, sa colère se manifeste. Non pas une colère incontrôlée ou irréfléchie comme nos colères le sont souvent, mais une sainte colère contrôlée, justifiée, mesurée. Si Dieu est vraiment Dieu, si Dieu est vraiment saint, il se doit de répondre au péché par la colère. Si ce n'était pas le cas, si le péché rendait Dieu indifférent, il cesserait d'être Dieu. On avait attiré sur nous la colère terrible de Dieu, son jugement éternel. On avait tous une place réservée, un billet VIP pour l'enfer. Mais pourquoi est-ce que Paul nous dit tout ça? C'est pas un peu déprimant? Pourquoi ce rappel douloureux des réalités sinistres qui nous caractérisaient autrefois? Amen. Tout simplement parce qu'on a parfois tendance à minimiser la gravité de notre ancienne condition. Pensez-y un instant. On a aussi tendance à minimiser la gravité de la condition des non-croyants qui nous entourent. Après tout, j'étais pas si mal que ça. J'étais dans la bonne moyenne. Oui, effectivement, dans la bonne moyenne des cadavres, esclaves, condamnés. Si vous avez grandi dans une famille chrétienne, vous pourrez peut-être comprendre ces paroles d'un auteur chrétien. La plupart des chrétiens ont entendu le témoignage d'hommes ou de femmes qui, avant de trouver le salut, avaient mené une vie totalement stérile, pataugée dans la débauche ou tout simplement dans le désespoir. La foi véritable au Seigneur Jésus-Christ a révolutionné leur existence, détruit d'anciennes habitudes mauvaises, permis de nouvelles amitiés, produit de nouvelles résolutions, imprimé une nouvelle direction et donné un sens à leur vie. Le désespoir a fait place à une certaine sérénité. Et certains d'entre nous qui ont été élevés dans des familles chrétiennes se sont parfois secrètement demandé s'il n'aurait pas été préférable de se convertir en venant d'un milieu corrompu. Dans notre esprit, il y a les grands pécheurs et les petits pécheurs. Et les grands pécheurs bénéficient d'un grand salut, forcément. Mais selon Paul, nous étions tous spirituellement morts, esclaves et condamnés. Si vous avez grandi dans une famille chrétienne, vous avez dû faire face, comme les autres, à la perversité et à la dépravation de votre cœur. Par conséquent, les enfants de chrétiens qui comprennent Éphésiens 2, 1 à 3, seront d'accord, je pense, avec la suite de la citation. L'auteur s'adresse à des chrétiens dont les parents l'étaient aussi et il leur dit « Vous êtes suffisamment confus des péchés que vous avez commis, malgré votre arrière-plan privilégié. Si bien qu'au lieu de souhaiter avoir grandi dans des conditions pires, vous secouez la tête tellement vous êtes honteux de n'avoir pas mieux profité de vos avantages et vous reconnaissez sincèrement que sans la grâce de Dieu, vous auriez pu commettre n'importe quel crime et vous vautrez dans les pires péchés. » Pas vrai? Il y en a qui viennent d'une famille chrétienne? Ben voilà. Voilà ce que nous étions tous, sans exception. Deuxième point, ce que Dieu a fait pour nous, les versets 4 à 7. Les deux premiers mots du verset 4 ont pour but de nous étonner, de nous surprendre, de nous sidérer. Mais Dieu, nous étions morts, nous étions esclaves, nous étions condamnés, mais Dieu est intervenu. J'aimerais qu'on réalise tous ce soir que dans les versets 4 et 5, Paul fait de grands efforts pour nous convaincre que ce que Dieu a fait n'était pas du tout normal. C'était pas normal. On devrait concevoir le salut de Dieu comme quelque chose d'étonnant, d'inattendu, d'inespéré. La conclusion normale et logique des versets 1 à 3 aurait été « Puisque nous étions par nature des enfants de colère et puisque nous avons confirmé la perversité de notre nature par notre comportement, eh bien, nous allons tous subir la juste et sainte colère de Dieu. » Mais il n'en est rien. Au verset 4, Paul évoque la miséricorde de Dieu. « Mais Dieu est riche en miséricorde. » La miséricorde est un secours inattendu et inespéré dans la détresse. Ensuite, Paul parle de l'amour de Dieu, mais en soulignant un aspect précis de cet amour. Toujours verset 4, « À cause du grand amour dont il nous a aimés, » redondance délibérée, mot de même famille, « l'amour dont il nous a aimés. » Verset 5, « Nous qui étions morts par nos fautes. » Et là, on a un écho du verset 1. « Dieu a aimé des hommes et des femmes qui étaient morts par leurs fautes, qui s'étaient rebellés contre lui, qui l'avaient rejeté, qui l'avaient méprisé, qui s'étaient opposés à Dieu. » Et c'est ça ce qui rend son amour particulier. C'est le caractère des personnes qu'il a choisi d'aimer. Puis intervient l'élément central du passage, toujours verset 5. « Il nous a rendus à la vie avec le Christ. » Il nous a rendus à la vie avec le Christ. Nous étions morts, mais il nous a rendus à la vie avec le Christ. Et pour s'assurer qu'on l'a bien suivi, Paul se permet d'ajouter à la fin du verset 5, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » C'est par grâce, par pure grâce que vous êtes sauvés. Est-ce qu'on entend ce que Dieu veut nous dire ce soir par les versets 4 et 5? Notre salut n'était pas un dû. Si Dieu nous avait laissé périr en enfer, on ne pourrait rien lui reprocher. Par définition, le chrétien est un individu qui s'étonne de la miséricorde et de la grâce de Dieu qui lui ont été faites. Pourquoi moi? Pourquoi tant d'amour? Et la seule réponse, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans son amour, dans sa bonté. La seule réponse acceptable, c'est l'adoration. C'est l'adoration. L'un des petits livres dont on recommande constamment la lecture à l'IBG, c'est le livre « Une vie centrée sur la croix » de Mahané. Voici un extrait du témoignage de l'auteur. « Je suis bien placé pour comprendre l'étonnement de Paul à l'idée d'avoir obtenu miséricorde. J'ai toujours vécu dans la même région du Maryland et pratiquement chaque mois, je me souviens de ce que j'étais autrefois. Avant que le Seigneur me sauve en 1972, j'étais moi aussi un blasphémateur. Je vivais pour moi et pour mon plaisir personnel. J'étais rebelle à Dieu et je me moquais de ceux qui le suivaient. J'ai passé mes années de lycée et d'université à m'immerger totalement dans le monde de la drogue. Parfois, tard le soir, mes amis et moi cherchions des lieux calmes et isolés où nous pouvions nous droguer sans avoir d'ennui. Plus d'une fois, ce furent des monuments de Washington ou encore le terminal d'un petit aéroport peu fréquenté nommé Dulles, où les portes restaient ouvertes longtemps après que les vols du jour aient cessé et où nous pouvions nous glisser dans les couloirs presque déserts d'un bâtiment. Parfois, je me retrouve à proximité de l'un de ces endroits et je suis submergé de souvenirs. Je me rappelle alors qui j'étais et qui je suis à présent. Souvent, les souvenirs de mes folies et de mon péché m'arrachent des larmes. Néanmoins, en même temps, mon cœur déborde d'une joie sainte et inexprimable. Je ne suis plus le même. Grâce à l'œuvre parfaite de Jésus sur la croix, j'ai reçu le pardon des innombrables péchés que j'ai commis. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, a écrit David dans le psaume 32:2. Cette vérité résonne dans mon âme, elle pénètre beaucoup plus profondément que n'importe quelle drogue. Actuellement, beaucoup de gens tentent de fuir leur passé. Je suppose que je pourrais essayer aussi en quittant la ville où tant d'endroits me rappellent mon péché. Mais pour moi, vivre ici est un don de Dieu. Les rappels réguliers de mon passé me sont devenus précieux. Pourquoi ? Parce qu'à l'instar de Paul, je ne veux jamais oublier la grande miséricorde qui m'a été manifestée. Et ne commettons surtout pas l'erreur de penser que la miséricorde, la grâce et l'amour de Dieu se manifestent envers nous uniquement par le pardon qui nous a été accordé ou par le fait que nous avons évité l'enfer. Le salut, c'est beaucoup plus que ça. Verset 5, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Notre émerveillement dépend ici de notre capacité de faire le lien entre Éphésiens 1:20 et Éphésiens 2:6. Éphésiens 1:20 affirme que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens 2:6 affirme que Dieu nous a ressuscités ensemble, c'est-à-dire avec le Christ, et qu'il nous a fait asseoir ensemble, c'est-à-dire avec le Christ, dans les lieux célestes. Selon la fin du verset 6, notre résurrection et notre session dans les lieux célestes se sont faites en Christ Jésus. Qu'est-ce que tout ça signifie ? Est-ce qu'il y en a qui se sentent assis dans les lieux célestes ce soir ? J'ai pas dit dans les nuages, ni dans la lune, mais bien dans les lieux célestes. Ce que Paul veut nous communiquer, c'est que nous partageons la destinée glorieuse de Jésus-Christ. Ce qui lui arrive, nous arrive. Son histoire devient la nôtre. S'il ressuscite, nous ressuscitons avec lui, spirituellement pour l'instant. Un jour, ce sera aussi physiquement. S'il monte au ciel, nous y montons avec lui, spirituellement pour l'instant. C'est par l'esprit que nous avons accès au lieu céleste. Mais un jour, physiquement, nous sommes unis à lui. Nous sommes au bénéfice de sa vie, puisque nous avons été ressuscités avec lui, et au bénéfice de sa victoire, puisque nous nous sommes assis avec lui, symbole de victoire, de réussite, dans les lieux célestes. Le chrétien vit simultanément dans deux sphères, la sphère terrestre et la sphère céleste. Sur terre, on est appelé à marcher de telle et telle manière. La métaphore de la marche est prépondérante dans Éphésiens. Mais en même temps, selon Éphésiens 1:3 par exemple, nous sommes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous avons les pieds sur terre et le cœur au ciel. Un jour, on aura le cœur et les pieds de notre corps ressuscité au ciel. Troisième point, ce que nous sommes devenus, les versets 8 à 10. Souvent, notre vision du salut de Dieu, elle se limite au passé. Et notre émerveillement en souffre cruellement. Dieu a fait sa part en me sauvant, Maintenant, c'est à mon tour de faire la mienne en obéissant. Or, pour Paul, le salut englobe le passé, le présent et l'avenir. Et du début à la fin de mon parcours, je dépends pleinement de la grâce de Dieu, qui est à l'œuvre dans notre vie. Dieu veut nous émerveiller non seulement par ce qu'il a déjà fait pour nous, mais aussi par ce qu'il est en train de faire et par ce qu'il fera encore. Verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On connaît bien ces versets, on les utilise tout le temps dans l'évangélisation. Paul exprime de toutes les manières possibles que c'est la grâce de Dieu seul qui nous sauve. Le salut ne vient pas de nous, nous ne l'avons pas conçu. Il est le don de Dieu. Le salut n'est point par les œuvres ou par quelque mérite humain, par quelque effort, afin que personne ne se glorifie. On ne peut pas s'en vanter. On l'a obtenu simplement en répondant par la foi, par la confiance à ce que Dieu a fait. Ces grandes vérités nous sont familières. Mais Paul s'empresse d'ajouter au verset 10 que la grâce de Dieu n'est pas arrivée à son terme dans notre vie. Car, et le petit mot « car » fait le lien entre les versets 8 et 9 et le verset 10, « car nous sommes son ouvrage ». Et dans l'Ancien Testament grec qu'on appelle la Septante, ce mot « ouvrage » fait régulièrement référence à la création. Car nous sommes son ouvrage, nous sommes sa création. Nous avons été créés, donc l'idée est répétée, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jusqu'à maintenant, Paul a parlé de notre salut comme d'une résurrection spirituelle, comme d'une libération de l'esclavage, du monde, du diable, de la chair, comme d'un sauvetage face à la colère inévitable d'un Dieu trois fois saint. Ici, au verset 10, il emploie le langage de la création pour décrire ce même salut. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, la création de Dieu. En fait, Paul évoque ici le thème de la nouvelle création. La première création a été gâchée par le péché. En Jésus-Christ, Dieu procède maintenant à une nouvelle création. Et dans cette nouvelle création, l'Église est le chef-d'œuvre de Dieu. Et chacun d'entre nous s'inscrit dans ce chef-d'œuvre magnifique. Que sommes-nous devenus ? Des participants à la nouvelle création. Mais attention, Dieu nous a recréés dans un but précis. Verset 10, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, littéralement, afin que nous marchions en elles. Nous sommes donc des membres actifs de la nouvelle création. On participe à cette nouvelle création. On s'investit dans la nouvelle création qu'est l'Église de Jésus-Christ. Quelles sont les œuvres bonnes auxquelles on est appelé ? C'est toute l'obéissance chrétienne qui est détaillée dans les chapitres 4, 5 et 6 d'Éphésiens. C'est ça, les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. On a été recréés en vue de cette nouvelle marche qui fait contraste à notre ancienne marche décrite au verset 2. Et en passant, notre passage est ainsi délimité par le thème de la marche. Il y avait l'ancienne marche et maintenant il y a la nouvelle marche. Deux styles de vie complètement opposés. Mais on n'est pas seul dans cette nouvelle marche. Même les œuvres bonnes qu'on accomplit, même les pas d'obéissance qu'on fait, Dieu les a préparées d'avance pour nous, dans l'éternité passée. C'est lui qui a conçu ces œuvres bonnes, c'est lui qui les a créées. Quand je dis la vérité, quand je prononce des paroles encourageantes, quand je refuse de me mettre en colère dans une situation difficile, quand j'aime mon épouse comme Christ a aimé l'Église, je ne fais que pratiquer des œuvres préparées d'avance avant ma naissance. C'est une autre manière de dire que c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon son dessein, selon son plan bienveillant, selon son plaisir. Philippiens 2:13. C'est Dieu qui me donne le désir, le vouloir et la capacité de marcher dans une direction diamétralement opposée à mon ancien parcours de vie. Oui, je suis actif, mais c'est Dieu qui m'active par sa grâce. De sorte que même quand je fais de bons choix, même quand je m'investis dans mon église locale ou dans mon GBU, c'est Dieu qui mérite toute la gloire et pas moi. C'est sa nouvelle création qui se manifeste. Par conséquent, je peux arrêter de me dire que je n'y arriverai pas. Que la vie chrétienne, c'est trop dur. Que je ne suis pas capable. Si c'est trop difficile, c'est que je ne suis pas en train de marcher dans les sentiers déjà préparés par Dieu. Ou alors, j'essaie de marcher dans ces sentiers, mais avec une mauvaise attitude, en dépendant de mes propres forces. Quelle vérité libératrice! Enfin, je peux me détendre un peu. Et c'est un verset qui me parle actuellement. Tout le système dans lequel on vit, le monde, déclare haut et fort que notre valeur dépend de nos accomplissements et de nos performances. Pour être quelqu'un, il faut se construire soi-même. Il faut faire de soi un chef-d'œuvre qui impressionne. En réussissant tel concours, en obtenant tel diplôme ou tel emploi, en possédant tel bien, telle maison, telle voiture. Mais l'Évangile dit le contraire. On est devenu l'ouvrage de Dieu, son chef-d'œuvre, sa nouvelle création, sans aucun mérite. Et on investit intensément dans cette nouvelle création qu'est l'Église. On donne de notre temps, on donne de nos talents, de notre argent, parce que la grâce de Dieu nous y pousse. On est le chef-d'œuvre de Dieu et les œuvres qu'on pratique découlent naturellement de son salut. Elles sont le fruit, le résultat logique qui a été préparé d'avance par Dieu. Il y a quelques mois sur France Info, j'écoutais avec grand intérêt un entretien avec l'un des grands philosophes français de l'heure. Très impliqué sur le plan politique, très influent. Il expliquait à quel point il voulait laisser sa marque sur les futures générations, notamment par ses écrits. Il accepte de vivre une vie relativement austère pour être plus productif. Il évite les soirées mondaines auxquelles il est régulièrement invité. Et en parlant des nombreux essais, des romans, des pièces de théâtre qu'il a composées, en évoquant les institutions qu'il a créées, les mouvements qu'il a fondés, cet homme a laissé s'échapper une toute petite phrase qui, à mes yeux, a trahi toute sa philosophie de la vie. Il a dit, en parlant de ce qu'il voulait laisser derrière lui, « Ça, c'est une œuvre. Ça, c'est une œuvre. » Voilà ce à quoi le monde m'appelle. Je suis invité à créer ma propre œuvre et à fonder mon identité propre et mon bonheur sur mes réussites et sur mes accomplissements. C'est risqué parce que parfois j'échoue. Mais Dieu nous invite ce soir à contempler l'ensemble des ressuscités spirituellement parlant, l'Église, la nouvelle création, et à dire « ça c'est une œuvre ». Ça, c'est une œuvre. Et ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Par sa grâce, j'en fais partie. Mais je ne pratique pas le bien pour marquer des points. Je pratique le bien parce que le salut dont je bénéficie m'impressionne, m'émeut, me bouleverse. Je te pose la question en terminant, est-ce que tu t'émerveilles de ton salut ? Les trois points de ce premier message nous ont fourni trois grands secrets de l'émerveillement. M'émerveiller de mon salut, c'est arrêter de penser que j'étais pas si mal que ça, que j'étais dans la bonne moyenne, et c'est accepter le verdict de Dieu. J'étais mort, j'étais esclave et j'étais condamné. Point à la ligne. Deuxième secret, m'émerveiller de mon salut, c'est arrêter de penser qu'il est normal que je sois devenu chrétien. C'est arrêter de me dire que j'avais droit au pardon et que c'est la moindre des choses que Dieu m'ait sauvé. Non. L'amour de Dieu, c'est la plus grande surprise de l'histoire de l'humanité. La plus grande surprise. Troisième point, troisième secret, m'émerveiller de mon salut, c'est arrêter de penser que Dieu a fait sa part et que je dois maintenant faire la mienne tout seul. que je dois me construire moi-même. Et c'est réaliser que même le bien que je fais, Dieu l'a préparé d'avance dans l'éternité passée par pure grâce. Je dois simplement marcher dans la dépendance envers Dieu et lui rendre gloire. Quand on demande à Mahané, l'auteur du petit livre dont j'ai parlé, Une vie centrée sur la croix, quand on lui demande comment ça va, il répond systématiquement « Mieux que je ne le mérite. Mieux que je ne le mérite. » Parfois, la vie est difficile, il est éprouvé, comme nous tous. Mais pour s'émerveiller de son salut au quotidien, il dit « Je vais mieux que je ne mérite. » Parce que si j'avais vraiment ce que je mérite, je ne serais certainement pas ressuscité avec Christ et assis avec lui dans les lieux célestes. Mais je serais en enfer. Que Dieu nous émerveille par son salut. Je vais prier. Seigneur, nous voulons nous attacher à ta parole et nous te demandons par l'Esprit, tout au long de ce week-end, de nous émerveiller par les grandes vérités que nous repassons ensemble. Vérités qui nous sont familières, mais que nous voulons redécouvrir, apprécier tout à nouveau. Nous voulons nous délecter, Père, de ce que tu as fait pour nous, de ta grâce, de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde. Et nous savons que ton Esprit seul peut nous permettre d'être impressionné par toi. Continue d'agir en nous, dans les jours, dans les semaines à venir. Au nom de Christ. Amen.